Du coup, je vais vous raconter un voyage que j'ai fait en Égypte. Je suis partie en octobre 2019, je suis partie pendant 3 mois dans la ville de Louxor, dans le sud de l'Égypte. C'est le voyage le plus important que j'ai fait en termes de durée et en termes d'implication personnelle. Quand je suis partie, je ne savais pas exactement combien de temps j'allais rester là-bas, mais je pensais 1 mois, quelque chose comme ça. J'avais arrêté mon travail temporairement pour voyager. Du coup, je suis partie 3 mois en tout, en pensant aussi bouger, en fait, faire un voyage itinérant. Au final, il se trouve que je suis restée à Louxor et qu'en fait, ça m'a beaucoup plu parce que ça m'a permis de rester là-bas, d'apprendre la vie quotidienne, de partager en fait la vie avec les habitants. Et pour moi, c'était une première et ça a été une très bonne expérience. Je regrette pas du tout et ça a même changé ma notion du voyage depuis, où je me dis que je préfère voyager moins mais plus longtemps, faire des voyages plus conséquents.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Mona raconte l'Égypte. Avec elle, on a parlé de tombeaux, d'opéra et de bananes.
J'ai bourlingué à travers le monde. Donc à la base, ce qui a enclenché ce projet de voyage, ça a été la rencontre avec un Égyptien que j'ai rencontré en France, avec qui je suis restée en contact pendant 1 an, et donc du coup je l'ai rejoint chez lui, ce qui a fait que je suis restée à Louxor avec lui. Voilà, on a eu une histoire ensemble. Et quand je suis arrivée, je pense comme beaucoup de personnes qui partent un peu loin, voilà, j'ai été saisie par toutes les premières impressions, que ce soit les odeurs, la chaleur, les bruits dans la ville, les klaxons, parce qu'en Égypte, le klaxon fait office de code de la route, clairement. Donc voilà, les premiers trajets en microbus aussi, où au début, on a l'impression qu'on va mourir à chaque carrefour, et puis bon, au final, on s'habitue. Donc voilà tout ça, et donc moi c'était la première fois que j'allais dans un pays arabe, et j'ai été tout de suite envoûtée par cette culture, que ce soit la langue, tout en fait, le fait que tout soit très intense, voilà, ça m'a beaucoup plu. Et du coup Louxor c'est un endroit assez particulier dans le sens où c'était la capitale de l'Égypte antique pendant le Nouvel Empire. Donc en fait, il y a énormément de sites antiques, des temples, des tombeaux. Et c'est vrai que beaucoup de gens, quand ils font un parcours touristique, restent au bord de la mer Rouge et viennent à Louxor une journée de maximum, mais c'est souvent une ville de passage. Et d'ailleurs, quand je rencontrais des gens parfois et que je leur disais que j'étais là déjà depuis un mois et demi, ils étaient étonnés, quoi. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu restes aussi longtemps ici? Donc, du coup, j'ai eu la chance de visiter des sites plusieurs fois, comme le temple de Karnak, de Louxor, le tombeau de Néfertari, enfin, des sites magnifiques. Et en plus, à ce moment-là, il n'y avait pas trop de touristes. Donc, c'était avant le Covid. Mais déjà, l'Égypte souffre d'un manque de tourisme depuis 2011. Donc, il y a eu la révolution, enfin, beaucoup de troubles politiques, des attentats qui font que, voilà, les gens commençaient à revenir avant le Covid, mais c'était pas encore ça. Et du coup, après, il y a eu le Covid. Pendant ce voyage, j'ai aussi du coup appris vraiment les codes du fait de vivre là-bas. Tout à l'heure, je parlais du microbus. C'est vrai qu'il y a des signes particuliers à faire quand on veut se rendre à une destination. Il passe vite. Enfin, au début, moi, j'étais paumée. Après, il y a des choses que j'ai appréciées aussi plus dans le sens où j'avais l'impression que les gens étaient plus solidaires dans leur façon de faire, notamment dans les transports en commun ou directement, en fait, les gens vont aider les autres qui ont des courses, les enfants, les personnes âgées. Il y a vraiment un rapport qui est beaucoup plus direct, rapide et sympathique, en fait. Voilà, quand on donne la monnaie au chauffeur, on la fait passer de rang en rang et la monnaie nous revient. Enfin, il y a pas de problème là-dessus. Enfin, c'est vrai qu'on s'imaginerait pas ça forcément en France où tout est beaucoup plus séparé, un peu cloisonné comme ça. Donc ça, je trouvais ça très agréable. Après, voilà, il y a d'autres choses auxquelles il a fallu s'habituer, comme la notion de l'heure en Égypte, qui est assez différente aussi. Donc moi, c'est vrai que je suis quelqu'un ponctuel, donc là-bas, c'est vrai que t'as un rendez-vous à 1 heure, bon, finalement, c'est jamais ça. Et c'est aussi parce que parfois, tu pars de chez toi
t'as un rendez-vous, mais en fait, tu t'arrêtes au moins 3 fois à parler avec les gens, boire le thé. Donc, bon, c'est aussi des bonnes raisons et c'est très sympa. Mais c'est vrai qu'au début, il faut s'y faire. Notamment, ça m'est arrivé de prévoir des taxis à l'avance et d'insister sur l'heure en disant « tu seras bien là à cette heure-là ». Et souvent, la réponse est « Inch'Allah ». Donc, c'est un oui, mais en même temps, on sait pas trop. Mais bon, la plupart du temps, ça se passe bien. Donc, je vivais avec quelqu'un, ce qui était... assez compliqué, notamment par rapport au regard de la société, parce que vivre ensemble sans être marié, c'est assez mal vu. Donc voilà, on criait pas sur tous les toits. Mais en fait, il y a aussi la notion de vie privée qui est très différente là-bas. Et moi, ça m'est arrivé de prendre un taxi à quelques rues de la maison ou quoi, et de discuter rapidement avec le chauffeur. Et en fait, il me disait « Ah mais oui, je t'ai vu avec lui l'autre jour là-bas. » Donc c'est vraiment tout ça. Et là où moi, je logeais, en fait, c'était dans un petit village, parce qu'à Louxor, donc il y a la ville de Louxor sur la rive est. Et on traverse le Nil, on arrive sur la rive ouest, qui est donc le domaine des morts dans l'Égypte antique. C'est pour ça qu'il y a tous les tombeaux de ce côté-là, en fait. Et donc là, il y a le village de Gourna, qui est un petit village avec des petites maisons en terre crue, qui est très agréable et en fait qui a la particularité de vraiment côtoyer des temples, des sites assez solennels, mais à la fois, il y a beaucoup de vie à côté. C'était vraiment très intéressant de ce côté-là aussi. Puis à côté de chez moi, j'avais aussi des voisines très vraiment adorables qui venaient souvent... quand je rentrais, elles venaient souvent frapper à ma porte pour qu'on échange. Mais en fait, on pouvait pas échanger parce qu'elles parlaient pas anglais et moi, je parlais quelques mots d'arabe. Donc, mais c'était toujours agréable parce qu'en fait, on s'asseyait juste sur un banc. On se parlait pas forcément. Moi, au début, ça me mettait hyper mal à l'aise parce que j'aimais pas les blancs et je me disais... Voilà, faut que je dise quelque chose, donc je disais un peu tout ça la même chose, mais au bout d'un moment je me suis dit, en fait, est-ce que c'est pas juste le plaisir d'être assis ensemble et de regarder un coucher de soleil derrière la montagne. Donc à cet endroit-là, il y a une magnifique montagne, c'est la montagne Thébaine, qui sert donc de nécropole aux pharaons et aussi aux nobles de l'Antiquité. Et donc c'est vraiment un endroit magnifique, et la maison où j'habitais, en fait, il y avait comme beaucoup de maisons, il y a un toit terrasse, quoi. Donc j'ai passé beaucoup de temps à contempler cette montagne de jour comme de nuit, où on peut apercevoir aussi des vols de montgolfières. Ça se fait beaucoup à Louxor, c'est une attraction touristique, mais c'est vrai que c'est souvent vers 6h du matin, on les voit décoller avec le lever du jour, et c'est vraiment une ambiance particulière aussi, avec le son des flammes comme ça. Sinon, la région de Louxor, c'est une région... Le sud de l'Égypte, c'est une région assez traditionnelle. Du coup, les hommes sont beaucoup habillés en galabeya, c'est un peu l'équivalent de la djellaba qu'on peut plus trouver au Maghreb, mais là, ça s'appelle la galabeya, donc voilà, ils ont un turban sur la tête, et les femmes, il y a beaucoup de femmes qui portent le hijab et comme des grandes robes noires, donc c'est vrai que c'est assez traditionnel, et il y a beaucoup de gens là-bas qui sont soufis, donc le soufisme qui est souvent décrit comme une branche mystique et ésotérique de l'islam, et du coup, c'est vrai que souvent, une fois par semaine... de la maison, j'entendais des zikrs. En fait, c'est des prières soufis entonnées comme ça à répétition, en fait. Et du coup, ils rentrent dans une espèce de transe et je crois qu'ils répètent les 99 noms d'Allah, comme ça, en continu. Et c'est vrai que voilà, ça faisait partie de l'ambiance assez spéciale, mais que j'aimais beaucoup. Et puis, bien sûr, le muezzin plusieurs fois par jour, dont la nuit. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué aussi quand je suis rentrée, où je trouvais que vraiment, en France, c'était super calme. J'ai trouvé qu'il y avait une notion du temps qui était vraiment plurielle, parce que on est dans le présent, hein, les gens sont dans le présent, ils ont des smartphones, il y a pas de souci, voilà, il y a l'actualité. Et en même temps, on fréquente les pharaons, enfin en tout cas leur esprit, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est quand même un endroit assez où il y a vraiment une ambiance spécifique liée à ça aussi, quoi. On est vraiment, c'est un lieu chargé d'histoire et tout le monde en parle, et même les enfants, ils connaissent très bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent du tourisme, et il y a beaucoup de gens qui sont guides, donc certains, dès leur plus jeune enfance, racontent les histoires aux touristes. Et puis, il y a aussi des choses comme les habits traditionnels, et puis les techniques agricoles, par exemple, où il y a encore beaucoup de techniques assez anciennes, avec des ânes, des techniques pour labourer la terre. Il n'y a pas de grosses machines agricoles, comme on peut voir ici. Quand j'étais là-bas, il y a eu aussi à côté de chez moi une résidence d'artistes, des dessinateurs en fait qui sont venus s'inspirer de l'ambiance locale. Du coup, je les ai vus pas mal de fois et c'est vrai que ça a été un temps assez agréable pour moi parce que c'était la première fois en fait que je me retrouvais à parler si peu français parce que du coup avec mon ami on parlait anglais. J'apprenais l'arabe aussi en parallèle, mais du coup c'est vrai que c'est la première fois que voilà je parlais si peu français donc ça me faisait du bien des fois d'aller les voir et de juste parler français, puis c'est intéressant de voir leur dessin, puis leur vision du lieu aussi. Du coup, à Louxor, j'ai commencé à prendre des cours d'arabe avec une Française. Je m'essayais un petit peu à la langue égyptienne, qui est une langue que j'essaie toujours d'apprendre, mais sans prof, c'est un peu compliqué. Et voilà, mais c'était super agréable. Et puis en fait, les gens, ils sont tellement agréablement surpris quand t'arrives à leur dire quelques mots un peu au-delà de choukran et de bonjour. Et ça m'a même valu une fois chez un primeur tellement étonné et content que je lui demande le prix en arabe et tout ça, qu'il m'a offert une banane. Donc ça m'a surprise moi aussi, mais en partant j'étais regonflée à bloc, voilà, je me suis dit que j'allais faire fortune en Égypte, que c'était le signe, que c'était un bon signe. Bon au final je ne parle toujours pas arabe, mais je n'ai pas abandonné l'idée non plus. Et en plus, il faut savoir que mon prénom, Mona, est très répandu en Égypte. On m'avait prévenu avant, mais je ne m'étais pas vraiment rendu compte. Et c'est vrai qu'en fait, à chaque fois que je me présentais, les Égyptiens étaient super étonnés. Enfin, ils me disaient toujours, mais t'es égyptienne, ton père est égyptien. Enfin, vraiment, c'est... Et c'est un prénom qui veut dire souhait, il me semble. Donc j'aime à penser que tout ça était peut-être prédestiné, que mon attirance pour l'Égypte était peut-être décidée à la base. Ce séjour, ça m'a aussi permis de me décentrer culturellement, même si j'avais l'impression d'être curieuse dans mes lectures, dans l'actualité, tout ça. En fait, d'être là-bas et puis d'être avec quelqu'un, donc de partager le quotidien et du coup de les valeurs aussi, d'être avec quelqu'un de croyant, alors que moi je suis issue d'une famille non-croyante. Tout ça, ça a été très enrichissant. Et ça m'a permis vraiment, je pense, d'ouvrir encore un peu plus mon esprit et de me poser des questions différemment. Et sur la question de la religion, quand je suis arrivée là-bas, je pensais par exemple un peu naïvement que le fait que je sois athée serait plus simple que si j'étais juive ou chrétienne. Et en fait, j'ai découvert que pas du tout, enfin pour certains, en tout cas avec certaines personnes à qui je parlais, que c'est difficilement concevable en fait. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui, moi, de mon point de vue, m'a étonnée, mais c'était très intéressant d'avoir des discussions là-dessus. Et c'est vrai que là-bas, alors je sais pas si c'est encore le cas, parce que normalement ça devait être arrêté ça, mais en fait là-bas, les gens ont leur religion d'inscrit sur leur carte d'identité. C'est vraiment quelque chose de prégnant dans tous les aspects de la vie, voilà, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de ça ici. Quand j'étais là-bas, j'ai aussi eu la chance de voir un opéra dans le temple d'Hatshepsut. Alors le temple d'Hatshepsut, c'est pour moi le plus beau temple de Louxor, en fait. C'est un temple donc d'une pharaon, Hatshepsut, qui est encastré dans la montagne et qui a une architecture étonnamment moderne, en fait, pour l'époque. C'est vraiment un endroit superbe. Et quand j'étais là-bas, ils avaient fait, il y avait du coup un opéra Aïda qui était joué, et ça faisait, je crois, 20 ans, il me semble, que ça n'avait pas été en spectacle en Égypte. Et du coup, c'était juste incroyable, les jeux de lumière dans le temple, l'opéra, tout ça. Enfin, c'était grandiose, quoi. Donc, je garde un souvenir assez fort de cet endroit. Et puis, sinon, je suis juste tombée amoureuse de l'endroit. Pour à la fois sa simplicité et en même temps son côté fascinant. Et puis après, les paysages, voilà, comme on peut imaginer, les champs de palmiers, de bananiers, les couleurs très intenses. Et quand j'étais là-bas, du coup, j'ai pas mal dessiné, notamment avec mon ami qui, lui, est peintre. Donc il m'a pas mal initié au dessin, à la peinture. Donc c'est vrai que des fois, on sortait juste pour dessiner comme ça des paysages, les bateaux du Nil, qui sont des felouks. Donc ce sont des bateaux avec des grands mâts élancés comme ça. C'est très visuel. Enfin, tout est extrêmement visuel. Et ça a notamment été pour moi un gros déclenchement par rapport à la photo, parce que je fais de la photo depuis 15 ans, peut-être un peu plus. Et c'est vrai que là-bas, ça a pris une autre tournure parce que le lieu, quoi, juste incroyable, ça m'a beaucoup inspirée. Et du coup, maintenant, c'est vrai que la photo fait vraiment partie intégrante de ma vie, mais ça a été vraiment un tournant pour ça, comme pour beaucoup de choses. Alors un soir, j'avais été aussi invitée chez une voisine, Asma, avec qui j'ai gardé contact depuis, qui m'avait invitée à une fête. Alors c'était une fête religieuse, mais je ne sais plus laquelle, j'ai oublié le nom. Et donc ça, c'était vraiment un moment fort du voyage aussi. Ce soir-là, en fait, moi j'étais dans la maison avec les femmes, les hommes étaient dehors. Après, certains venaient avec nous, mais j'étais surtout avec les femmes et les enfants. Et c'est vrai qu'au début, je savais pas trop mettre, parce que bah, pour communiquer, donc j'avais ma Asma qui parlait anglais, mais c'est vrai que les autres parlaient pas anglais. Donc au début, elles me regardaient pas trop. Et puis au fur et à mesure, en fait, elles ont commencé à venir me parler. Et puis l'échange s'est fait naturellement. Alors il y en a plusieurs qui m'ont touché les cheveux. Alors je sais pas pourquoi, j'étais un peu blonde à cette époque-là et je pense que voilà, ils appréciaient. Et puis l'ambiance s'est mise toute seule, mais c'est vrai que c'était une soirée assez assez agréable. Puis vu que j'avais mon appareil photo, j'ai fait pas mal de photos et ça a vraiment créé du lien, notamment avec les enfants. Et du coup, je suis retournée en Égypte en fait cette année et donc j'ai pu revoir certaines de ces personnes. Donc même si on n'a pas passé énormément de temps ensemble, c'est vrai qu'il y a des moments comme ça assez forts qui finalement peuvent créer quelque chose. Parmi les sujets qui m'ont accroché là-bas, on m'a beaucoup raconté l'histoire aussi de la population de Gourna. Donc le village de Gourna a été très marqué ces dernières années par une politique de relogement du gouvernement, en fait, parce que au fil des ans, il y a beaucoup de maisons qui s'étaient construites autour de tombeaux. Du coup, pour protéger ces sites, les maisons ont été détruites, sauf que voilà, c'est un relogement qui se fait de force en fait, donc la population là-bas est assez marquée par ça, il y en a beaucoup qui en parlent très rapidement. Surtout qu'en fait, ils ont été relogés dans une ville construite à 5 km à la va-vite, en plein désert. Et les gens avec qui j'ai parlé, ils m'ont tous dit, bah en fait, c'est super mal isolé, on a froid l'hiver, on a chaud, on crève de chaud l'été, il y a plein de scorpions, et puis c'est trop petit quoi, avant ils s'étaient fait... Bah, des maisons voilà, faites pour vivre avec leurs enfants, s'ils sont, je sais pas, 4 ou 5, et là, ils sont dans des petits logements. Et puis, c'est vraiment, du coup, une ville qui n'a pas d'âme. C'est encore vide, quoi. Il n'y a pas de vie. Et notamment, bah, les gens qui travaillaient sur les sites de fouilles archéologiques ou alors juste en tant que gardien ou de guide, ils sont hyper pénalisés parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de faire les trajets tous les jours. Donc, c'est vraiment quelque chose qui... Et en même temps, c'est vrai qu'ils étaient... sur des sites voilà, où les tombeaux étaient aussi affectés par le fait qu'ils vivaient là. Mais voilà, ça s'est fait, on va dire, de façon comme ça. Et c'est un sujet qui est intéressant, notamment parce que ça, c'est pas qu'à Luxor, quoi. Au Caire, en ce moment, il y a aussi ça. Ils sont en train de détruire des quartiers dits informels pour recréer du beau et du flambant neuf. Voilà, mais il y a cette considération de la population qui est un peu spéciale. Voilà. À Luxor, moi, quand je sortais au début, bah, j'étais toujours accompagnée de mon ami, donc qui était égyptien, donc c'est vrai que ça facilitait les choses, entre guillemets. Mais ensuite, moi, j'ai eu envie de me balader toute seule. Chose avec laquelle il était pas très à l'aise parce que il appréhendait, en fait, que je me fasse un peu embêter dans la rue. Mais moi, sur le moment, je sais me débrouiller, je suis grande, donc j'y vais, quoi. Et c'est tout à fait possible, hein, de se promener à Luxor toute seule. Mais c'est vrai que la première journée que j'ai passée là-bas toute seule, à me promener, j'ai compris le truc dans le sens où t'es sollicité tout le temps, en fait. Déjà dans la rivesse, je parle de la partie de la ville vraiment là. Donc en fait, il y a beaucoup de gens, les chauffeurs de taxi, ceux qui ont des calèches ou des bateaux, en fait, ils vont tout le temps te solliciter. Voilà, c'est lié au tourisme, hein, c'est normal. Mais c'est vrai que quand on n'est pas préparé, ça peut être en première journée assez harassant. Et c'est vrai que le fait d'être peut-être une femme européenne qui se balade toute seule sans être dans un groupe de touristes, c'est vrai que je pense que ça a un peu interpellé aussi. Notamment, je me rappelle d'une fois où j'étais dans un musée et je regardais une statue. Et en fait, à côté de moi, devait y avoir une classe de lycéens, voilà, qui faisait une visite. Et en fait, à un moment, j'ai commencé à sentir des regards sur moi, alors que moi, j'étais vraiment plongée dans la contemplation de la statue. Et je me suis retournée. En fait, il y avait un groupe de filles, de jeunes filles, qui me regardaient en rigolant, quoi. Vraiment, comme si c'était inédit de me voir là. Et donc, je me suis adressée à elles. Et du coup, elles m'ont demandé un selfie, m'ont demandé comment je m'appelais. Et c'est vrai que là-bas, il y a beaucoup de gens à demander des selfies. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a ce rapport aussi qui m'a un peu déroutée, parce que je me disais, pour il y a du tourisme en Égypte, donc enfin il y a pas mal d'Occidentaux à venir, mais bon, il y avait quand même toujours ce petit côté un peu surpris de me voir là, mais voilà. Après, pour le côté plus les côtés touristiques, c'est comme dans beaucoup de pays, les pays qui dépendent du tourisme, c'est vrai que ça peut parfois un peu créer des relations qu'on cherche pas forcément parce que ça reste pécunier, mais voilà, je pense qu'il faut passer outre et notamment quand je disais aux gens que ça faisait déjà quelques semaines que j'étais là et que je leur disais deux, trois mots d'arabe, déjà ça changeait quand même un peu le rapport, quoi. Ils me disaient, ah oui, bon, toi t'es d'ici, c'est pas pareil, bon. Au final, je suis restée à Louxor jusqu'à fin décembre. Donc, je me suis fait quand même la réflexion que je devais peut-être être une des seules touristes à être allée en Égypte sans aller voir les pyramides. En tout cas, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Mais je suis restée jusqu'à fin décembre. Donc, en plus, c'était assez sympa parce qu'à l'approche du 24 décembre, tous les gens qui me croisaient me souhaitaient joyeux Noël. Et donc, voilà. Donc, je suis rentrée ensuite le 25 décembre pour retrouver ma famille. Et j'étais censée retourner vivre là-bas, ce qui ne s'est pas fait. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que j'ai créé un lien assez spécial et très fort avec cet endroit, ce pays et cette région particulièrement, grâce à ces 3 mois et aux habitants de Louxor.
Merci beaucoup pour ton récit. Pourquoi t'as voulu raconter ce pays en particulier ?
J'ai voulu raconter ce pays parce que donc c'était mon voyage le plus conséquent. Et que c'est un pays auquel je reste attachée même aujourd'hui. Il a changé ma vie et je l'aime vraiment énormément, pour le dire simplement.
Pour ouvrir de manière un peu plus générale sur la façon dont tu voyages, à quel point tu prépares tes voyages quand tu pars et quelle place tu laisses à l'improvisation justement, une fois que tu es sur place ?
Alors, d'habitude, j'ai plutôt prévu... parce que d'habitude, quand je voyageais, c'était plutôt des voyages itinérants. Sans prévoir non plus au jour le jour, j'aime bien prévoir des logements, des transports, un minimum les premiers jours, quoi. Après, bon, ça pouvait se faire sur le tas, mais c'est vrai que, pour le coup, celui-là, même si je m'étais renseignée, je savais ce que je voulais voir à Louxor, mais je pensais pas rester 3 mois au final, donc je suis restée 3 mois, donc il y avait plus d'improvisation, tout en sachant que je savais où j'allais vivre, donc j'avais pas à me poser la question de ce côté-là, quoi.
Quand tu voyages, qu'est-ce que tu prendras toujours avec toi dans ton sac ?
Bien alors, sans surprise, ce sera mon appareil photo. Les voyages m'ont beaucoup aidé à développer mon œil par rapport à ça, et vu que c'est une activité dont j'espère faire ma profession d'ici peu. Puis j'ai toujours aussi un carnet, un stylo, parce que j'aime toujours écrire pendant les voyages, même si c'est pas toujours facile avec la fatigue du moment et tout, mais j'essaie de garder toujours une trace écrite.
Est-ce que tu mêles justement cette trace écrite avec les photos ou ça reste quand même deux médiums distincts que tu ne mêles pas ?
Là, pour l'Égypte, pour le coup, j'ai vraiment mêlé parce que j'ai eu besoin de le raconter, alors pour moi, plusieurs fois. Et notamment, j'aurais voulu en fait retourner là-bas pour des reportages parce que j'ai une formation de journaliste et d'ailleurs, j'y pense toujours. Si un jour j'ai l'occasion d'aller là-bas et parce que je continue à me renseigner sur cet endroit et je trouve qu'il y a des sujets très intéressants. Donc pour le coup, là, quand je suis rentrée, j'ai ressenti le besoin de mêler les deux pour raconter cette histoire.
Une fois que t'es de retour au pays, est-ce que tu es atteinte du blues post-voyage ? Si c'est le cas, comment tu te soignes ?
Alors oui, je suis assez sensible à ça, notamment parce que j'ai la particularité de me projeter très vite dans un endroit que je visite. J'aime bien m'imaginer vivre dans un autre pays. Et d'autant plus là en Égypte, où pour le coup j'avais vraiment le projet de m'installer et de vivre. Du coup oui, le retour a été assez difficile, d'autant plus qu'il y a eu le Covid juste après, les confinements, enfin bon voilà. C'était un peu le pire retour de voyage. Et puis comment je me soigne, alors je sais pas si c'est un bon remède, mais j'ai tendance à regarder beaucoup mes photos, et je suis quelqu'un d'assez nostalgique, donc je me repasse en boucle certaines scènes, et puis c'est toujours l'écriture aussi, c'est vraiment une façon d'extérioriser et de garder une trace et d'éviter que ça s'échappe.
Comment tu considères les rencontres en voyage ? Est-ce que c'est plus des relations à usage unique ou des relations que tu fais perdurer ? Et est-ce que au cours de tes voyages, il y a une rencontre en particulier qui t'a marqué ?
Alors, ça dépend de la durée du voyage, bien sûr, parce que quand on reste pas longtemps, c'est malheureusement souvent des rencontres à usage unique, mais... pas forcément d'ailleurs, mais bon, on a moins de temps. Mais bien sûr, je recherche des rencontres plus approfondies, et notamment avec mon séjour à Louxor, je m'intéresse vraiment à la vie quotidienne et à la vie des gens, à essayer de comprendre ce qu'ils vivent, en fait, à travers nos différences aussi, et c'est très intéressant. Du coup, une rencontre qui m'a beaucoup marquée, mais pour le coup, la rencontre s'est faite en France. Mais c'est une rencontre en France qui m'a amenée en Égypte, et c'est vrai que on est toujours amis aujourd'hui, et ça restera, voilà, une rencontre très importante, et du coup, c'est vrai que sans ça, je n'aurais pas, peut-être pas fait ce voyage en Égypte. Donc, moi, en fait, j'aime à penser maintenant que, même si cette histoire d'amour n'a pas duré, elle a par contre enclenché mon histoire avec l'Égypte, qui, elle, peut durer toute la vie.
Pour se parler du futur maintenant, mis à part un retour en Égypte, j'imagine, est-ce que tu as d'autres projets ?
Oui, alors j'ai envie de faire beaucoup de voyages, et du coup c'est vrai que ces dernières années je me suis beaucoup intéressée aux pays arabes. Là j'aimerais beaucoup aller en Algérie, parce que notamment parce que l'histoire du pays m'intéresse beaucoup. J'aimerais aussi beaucoup aller en Palestine, mais sinon peut-être plus abordable et plus réalisable dans les prochains mois ou années, ce serait d'aller en Andalousie. Parce que j'ai aussi des attaches en Espagne, et que bah forcément l'histoire d'Al-Andalus, voilà, le mélange de la culture espagnole et arabe, c'est vrai que la période d'Al-Andalus me fascine pas mal, et j'aimerais beaucoup aller là-bas visiter les sites incontournables, quoi.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien, donc tu as un petit espace qui t'est réservé, dans lequel tu peux partager un proverbe, une recommandation, une anecdote, c'est à toi.
Alors, quand j'étais à Luxor, on m'a dit une expression que j'aime beaucoup, c'est « qui a bu l'eau du Nil reviendra sur ses rives ». Alors personnellement, j'ai pas bu l'eau du Nil et je ne vous le conseille pas, mais bon voilà, je trouvais l'image belle, et effectivement, je pense que pour certaines personnes, c'est un pays qui peut accrocher très vite.
Merci beaucoup.
Merci.
Et voilà, c'était Bourlingué. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi écouter Bourlingué sur la web radio Voyage, Allô la planète. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlingué.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui.